Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 2 mai 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le feuilleton sentimental que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
XD va miser surtout sur les sports de Jones, tu vois quoi, le skate, le roller, des trucs comme ça quoi, tu vois.
Le bong, le vol à la tire, la tournante.
Voilà.
Tout à fait.
C'est Xavier qui l'a dit.
Le binge drinking.
Mais ça m'a échappé. Mais c'est une suggestion que je fais.
Mais bien sûr.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Bah quoi, on se la pète ?
Bonjour !
Bonjour, bonjour Ultimatum, comment vas-tu ?
Eh ben ça va bien Dasrich, là il fait beau, on a le soleil.
Ouais, c'est peut-être parce que JB est pas là aujourd'hui. Non, je dois déconner quelque part.
Non mais vas-y, vas-y à fond, de toute façon il ne réécoute pas les émissions.
Oh oui, non mais si, suivez, ça se saurait. Pardon. Du sport va arriver en cours d'émission. C'est émission numéro 197, ce qui signifie que bientôt on va fêter notre
198. 200e.
Qu'est-ce qu'on va leur faire? Non, aujourd'hui c'est la 197.
Oui.
198, c'est dans 15 jours, puisqu'on n'est pas là la semaine prochaine.
Ah, c'est compliqué, ça devient compliqué. Attention, il faut suivre.
Ouais,
Eh ben, si tu veux, on peut se la jouer à les émissions de prime time, genre on vous fait un best-of. Oh, ben non, en fait.
Les 100 meilleurs moments de...
Ah ouais, le classement, les 100 meilleurs moments, ouais, c'est pas mal ça.
Ouais, mais d'un autre côté, si c'est pour que De Chava nous porte plainte contre nous pour plagiat, de trucs qu'il a pompé lui-même sur YouTube.
Ouais. Toujours est-il qu'on sait pas encore ce qu'on va vous préparer, mais on va vous préparer un truc.
Ah ouais, non, là c'est complètement obligé, c'est clair, c'est obligatoire. La semaine prochaine, on n'est pas là. Alors, il est censé avoir un festival de bande dessinée à Toulouse. Ce qui est très amusant, c'est que plein d'éditeurs me contactent. Ils sont incapables de me donner le contact presse du salon. Et je leur dis, mais moi je suis désolé, tant que j'ai pas de communication officielle, pas de communiqué là-dessus. Obligé. La dernière fois, parce qu'on l'a annoncé sur Actua BD, ils nous ont tapé dessus. Après, on arrête à partir de
qui
là.
Qui nous a tapé dessus?
Je te rappelle que il y avait une rumeur d'un festival à Toulouse. On l'a annoncé sur Actua BD. Ensuite, on a mené notre enquête auprès de la mairie, qui a dit que nous vivons hors de question qu'il y ait un festival BD à Toulouse, que finalement ils ont fait un, etc. Et qu'ils nous ont reproché d'avoir... donner des informations qui étaient fausses.
Bon, eh ben on dit rien.
Le problème, c'est que tout a été à l'oral, donc rien. Voilà, puisque nous, on enregistre, nous, on est des gens sérieux.
Bon, mais il paraît qu'il y a un festival, mais on n'est pas au courant.
Voilà, donc vraiment désolé hein, pour nos amis
BDFIL
et éditeurs. Donc, on a déjà annoncé la semaine dernière qu'il y avait
des auteurs présents.
Quelques auteurs qui étaient présents en fonction justement des sorties qui allaient avoir lieu. Mais après, ben, sans plus, hein, camarades. Sans plus, sinon que tout à l'heure on va en parler, et ça tombe bien que du sport soit arrivé, qu'il y aura Serge Fineau qui est dessinateur, et sur un scénario d'Eli Chouraki, il fait l'étrangleur de Boston qui vient de sortir chez Soleil, et ben on en parlera, justement, c'est l'occasion d'un très gros dossier en l'absence principale du protagoniste. C'est dommage, j'aurais aimé le passer à la question, mais bon. Que voulez-vous ? Ceci dit, il n'y a pas que ça qui arrive dans les locaux, je veux dire, il y a aussi du soleil. Combien, vu l'absence de lumière.
Oh, soleil. Pardon.
Ouais, bon, d'accord. Aujourd'hui, c'est le Comic Book Day. Ça fait environ 4 ans qu'ils ont lancé cette initiative aux États-Unis. En fait, au départ, c'est une initiative de libraire, c'est-à-dire on fait une nuit pour faire des séances de dédicaces, faire découvrir les bandes dessinées et tout le reste, faire lire. Et le distributeur unique aux États-Unis de bandes dessinées, je parle pas d'Amazon, mais je parle de Diamond Comics, qui a vraiment le monopole de distribution des comics, ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes pour pas mal de petits éditeurs, a dit, eh ben, on va proposer gratuitement des bandes dessinées. Alors attention, l'astuce, elle est, c'est que en fait, les imprimeurs font payer au prix coûtant aux libraires, et les libraires donnent gratuitement. Facile, hein. À ce stade, c'est facile que ça soit gratuit. Donc, il y a plein de bandes dessinées qui vont sortir. L'an dernier, il y en avait eu qu'une douzaine. Là, cette année, j'en compte une cinquantaine. Le listing est hallucinant. Il y a deux catégories, les Gold Comics et les Silver Comics. Dans les Gold Comics, on a les Avengers, on a Pixar Cars, Disney Pixar. Donc ça, c'est un premier tome, Résurrection, Shonen Jump, l'adaptation de la revue japonaise archi connue.
Shonen Jump Presents.
Voilà. Un crossover Transformer Animated G.I. Joe. Pardon, excusez-moi pour la voix. Notez d'ailleurs que G.I. Joe, il y a des webisodes qui annoncent la venue du film en août. Et que ça tabasse. C'est impressionnant. C'est Warren Ellis, quand même, au scénario.
Le trailer version longue est disponible depuis cette semaine. Ça tabasse.
Ça tabasse. En tout cas, les webisodes, il y en a 10 en tout, de 5 minutes en moyenne. C'est quand même pas mal. Pour en revenir donc à la liste de ces comics qui sont proposés, il y a les Clone Wars, il y a Alien vs Predator, Attack of the Alternate Zombies, Cyber Force, Hunter Killer, DC Kids, Mega Sampler. Ah, bon. Il y en a plein, il y a NASCAR Heroes, donc ça c'est plutôt du sport, je suppose, les Teenage Mutant Ninja Turtle,
Tortue Ninja,
réédition pour les 25 ans de la série, du comics
déjà,
voilà, ouais, déjà du premier numéro, Warhammer Fantasy, Wolverine Origin of an X-Men et plein d'autres choses. Toutes les informations sont freecomicbookday.com, et si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous allez dans supplementweekend.fr. Et vous allez dans les chroniques, et c'est déjà linké, comme ça vous pourrez voir un peu ce qu'il s'agit, puisqu'on peut télécharger justement certains de ces comics sur le site, normalement à partir d'aujourd'hui. Ce matin, il y a eu juste quelques planches en preview, normalement beaucoup plus seront présents au cours de la journée, disponibles notamment internationalement. C'est l'occasion, donc voilà, c'est le Free Comic Book Day. Thomas, lui, il est dans littéralement autre chose.
Oui, moi je suis dans les jeux vidéo avec ce premier numéro du nouveau magazine IG Mag, l'esprit du jeu vidéo. Donc c'est édité par Ankama Press, hein, c'est le numéro de mars-avril 2009, le numéro 1, donc il est à 8,50€ en kiosque, avec en couverture, vous pouvez pas la louper. En vernis sélectif, c'est Street Fighter 4. Donc c'est le magazine avec un gros dossier, vous imaginez, sur Street Fighter 4, autour de Street Fighter 4, de la saga de Capcom. On a aussi un historique du jeu de baston proche de l'exhaustif presque, mais bon, ça retrace, c'est pas mal, hein, pour ceux qui ont pris le genre en cours de route, hein, qui se mettraient peut-être au genre avec le numéro 4. Donc c'est pour l'expliquer, Final Fight, SNK, tout ça, pour rétablir le background. On a aussi la rubrique critique, on a le chapitre économique qui est super intéressant, avec un article de fond sur qu'est-ce que le casual gaming.
Casual
gaming, donc c'est on peut dire que ce sont un peu les nouveaux joueurs qui se sont mis au jeu, mais qui sont pas destinés à des jeux qui ne sont pas destinés à être joués en profondeur, c'est-à-dire sur plusieurs heures d'affilée. C'est juste pour se détendre, là un peu le cerveau, entraînement cérébral de Kawashima, des trucs comme ça, les petits jeux sur DS qui ne nécessitent que une immersion très courte entre 10 et 15 minutes. Et l'article de fond permet de remettre les choses en
exactement
contexte.
Exactement l'inverse du RPG, c'est là-dessus justement que la Wii a largement décollé, puisque ça permet de s'intéresser à une frange de joueurs justement occasionnels.
Oui, voilà, c'est, et en plus on peut distinguer le casual gamer du core gamer et du hardcore gamer, et l'article justement est très intéressant, puisqu'il dit finalement, si le casual game c'est quelque chose pas très évolué graphiquement, puisque c'est pour privilégier le gameplay,
la sensation,
si c'est un jeu qui ne dure pas beaucoup, tu peux faire des petites parties de 15 minutes. Mais dans ce cas-là, Pac-Man, c'est un casual gaming ?
C'est tout à fait ça, puisque effectivement, c'est des trucs courts. On peut dire la même chose du démineur et du solitaire.
Voilà.
Jeux où je suis expert d'ailleurs.
Les jeux que les vieux joueurs, les purs et durs se réclament, qui sont Pac-Man, Tetris, Pong, bah, ce sont des casual gaming. Voilà. Et donc, c'est un article qui est assez intéressant. C'est fait par une fille en plus, la rédactrice en chef. Elle dit, tiens, on m'a demandé à moi de faire l'article parce que je suis une nana. Oui, du sport réclame la parole.
Il est ouvert.
T'as oublié les Space Invaders.
Space Invaders également, Galaxian, enfin il y en a beaucoup. On a aussi un article sur les métiers du jeu vidéo. On ne donne pas suffisamment la parole aux gens qui produisent. Hein. Alors ça, on a une interview d'un web designer, un sound designer, un écrivain de jeux vidéo avec des interviews vraiment poussées sur plusieurs pages.
C'est vrai qu'on a le métier a complètement évolué. Dans les années 80, c'était des personnes qui le faisaient, voire à deux, hein, des fois, hein, mais qui étaient à la fois développeurs, graphistes, musiciens et tout le reste. Ensuite, on a eu des groupes comme les Bitmap Brothers et Team 17 qui venaient de l'Amiga et de l'Atari et qui depuis sont reconvertis dans la console parce que non seulement sont des graphistes et des musiciens hors pair, mais surtout des codeurs qui programment en assembleur. C'est vraiment au cœur de la machine avec des performances ahurissantes. Il n'y a pas besoin d'un très très gros PC pour faire des jeux fabuleux grâce à eux. Et c'est vrai que ça a littéralement explosé point de vue spécialisation.
Ouais, voilà. Et en plus, c'est vachement intéressant de voir enfin des créatifs vraiment interviewés. En plus, c'est pas vraiment des questions sur tiens, qu'est-ce que t'aimes comme type de jeu. C'est vraiment comment tu travailles. Quel statut tu as, freelance. Qu'est-ce que c'est les avantages, les inconvénients, etc. Par rapport à ton métier, c'est super ciblé. Dans le chapitre People, on a des retours sur la saga Ubisoft, sur Akira Toriyama, le character designer, pas le mangaka.
Oui.
On a l'interview de Rolito qui a fait le design de Patapon, qui est un pote à Run d'ailleurs.
Ouais.
En rubrique culture, on a les jeux vidéo et le cinéma, la place du corps dans le jeu vidéo, justement avec toutes les questions que pose justement l'arrivée de la Wii. En la rubrique rétro,
Je vais pas dire l'arrivée de la Wii maintenant, la domination.
La domination sans partage. Ouais. Le chapitre rétro, la saga Apple, puisqu'Apple a commencé avec le jeu vidéo.
C'est assez peu à dire. Mais les premiers sons qui sont sortis d'un Apple II, il faut savoir que les deux Steve Jobs, celui qu'on connaît, Steve Wozniak, celui qui est beaucoup moins connu, qui a quitté l'aventure Apple en 84, se sont connus parce que on avait Steve Jobs bossé chez un fabricant de cartes de jeux vidéo et on lui avait demandé d'optimiser l'informatique qui était derrière le nombre de puces. Il gagnait des sous chaque fois qu'il enlevait des puces. Et c'est Wozniak, un bricoleur génial, qui l'a aidé. Il s'agissait de Pong. Et le premier jeu adapté sur Apple 2, c'était Pong. Et c'est là où justement on a bricolé un circuit son exprès pour. Encore une fois, c'était Wozniak qui était derrière.
Voilà, donc on replace dans le contexte.
C'est un peu Julien Pirou là, de la pub.
Oui, mais vas-y, c'est geek, donc c'est toi. Hein. Donc là, retour sur la saga Apple et aussi l'historique de la création de du grand concurrent de Nintendo de l'époque, c'était Sega, avec l'historique de Sega. Et ça, c'est que la première partie.
Sega existait depuis un bail, hein, c'est la reconversion plutôt.
Donc l'historique de Sega depuis la création de Sega jusqu'à grosso modo jusqu'à Virtua Fighter et donc ça c'est la première partie et on a aussi la chapitre Geek Zone avec tous les accessoires improbables pour jouer qui était les espèces de gants enfin moi je suis
le
trop
gant
jeune,
Nintendo j'ai... là le truc ça n'a jamais marché en France, je crois pas que ça a été distribué d'ailleurs.
Oui, t'as la Family Fun Fitness, t'as des trucs avec des pubs de l'époque aussi, hein, les trucs Atari, les Building System, etc. Bon,
les designs à l'époque qui étaient faits à la planche, à découper, tramer, ou bien à l'aérographe, et puis on mettait le jeu dans la console et on n'avait pas la même chose que ce qu'il y avait sur la pochette, t'étais déçu.
Voilà, IG Mag numéro 1 de mars-avril 2009, 8,50€ en kiosque et là c'est un peu bon. Moi j'ai mis
full disclosure quand même. Hein, c'est édité derrière. Il y a un éditeur de jeux vidéo.
Un éditeur de jeux vidéo qui ne parle pas de ses propres produits. Hein. IG Mag donc c'est 240 pages sans pub. Moi perso il m'a fallu 3 semaines pour le lire. Parce que bon, les articles, tu fais pas la cuisine quand tu les lis. C'est oula, oui, c'est dense. C'est les informations sont, il y en a une par phrase. Bon, voilà, il faut être concentré. Voilà, IG Mag.
Encore un bouquin que j'aurais pas le temps de lire.
Le numéro 2 sort. Alors attends, je retrouve.
Alors 8,50€ en kiosque, ça il faut le signaler.
Voilà, le numéro 2 sort.
Et les pubs télé, j'avais l'impression qu'il était plus grand, et en fait non. Hein.
Oui, qui ont été faits par l'équipe de No Life. Donc le numéro 2 sort le 26 mai 2009. Il y aura un dossier sur Resident Evil 5, un dossier sur la saga Resident Evil, dossier Dragon Quest et l'historique de EA Games. It's in the game.
Oui, oui. Ça c'était. C'est EA Sports. C'est le slogan de EA Sports, qui n'est pas exactement la même chose. Et on commence les sorties bande dessinée dans le supplément week-end avec un petit format carré vraiment 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 sympa et vraiment cool. Et moi franchement, je justement puisqu'on parlait un petit peu de rétro design en fin de rétro gaming, je vais parler plutôt de rétro computing. Il s'agit de Hazy Lee qui est un chinois comme son nom l'indique. Très mal prononcé par votre serviteur, malheureusement, qui est édité par Chiaopan dans une collection qui, puisque enfin Chiaopan se lance dans les collections pour mieux identifier ses productions, qui s'appelle Carré d'art. L'essence de la vie, et ben, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Chiao Lu, un enfant rêveur, doit avoir 12-13 ans, contemplatif, qui observe les autres du haut de son capuchon. Lassé de demander à son père le sens de la vie, il décide de découvrir par lui-même l'essence de la vie. Il va y trouver l'amour, la déception et surtout le courage. L'enfant va grandir pour devenir un adulte à la fin de l'histoire. Il y a peu à dire justement sur l'histoire, car tout simplement, elle doit être découverte comme elle a été publiée au départ, par épisode et par surprise. Dessinée au départ avec ce que l'on appelle une application Java, c'est-à-dire dans le navigateur web, le dessin a à la fois la spontanéité du trait et les couleurs pleines. Car tout a été fait via un site web de graffiti numérique, aux capacités assez contraignantes et aux allures de rétro-computing. On a l'impression que ça a été fait sur les Amiga ou les Mac début années 90. Des textures bricolées à base de pixels, le côté low-tech, fait oublier qu'avant les artistes de Photoshop, le dessin sur ordinateur fut un combat pour trouver comment caler certains pixels. Et c'est là toute l'astuce de Hazy. C'est qu'il est allé bien au-delà du côté froid de cette technique pour lui donner une humanité, une rêverie, une poésie rafraîchissante. C'est exactement le genre d'œuvre qui aurait pu sortir il y a 20 ans, avec Deluxe Paint ou Brilliance, mais il fallait les blogs bande dessinée, les espaces collaboratifs online pour donner l'étincelle à cet auteur talentueux. Hey Lizzie, l'essence de la vie, c'est dans la collection Carré d'art chez Chiaopan. À noter que l'éditeur Chiaopan sera au salon de la bande dessinée, on ne sait pas si c'est un salon ou un festival, le Image Salon, voilà, c'est du 8 au 10 mai avec Liu Wei. Peut-être je ne saurais vous dire d'ailleurs ce qu'il a fait. Liu Wei, c'est. Non, ça ne dit rien.
Si, mais.
Ouais, c'est, ouais, voilà. Bon,
assez
d'accord.
Dur pour nous autres occidentaux d'identifier.
Voilà, et si vous êtes fan de Benjamin, qui a un trait, lui, Photoshop est beaucoup plus.
Oui, ça, on sait ce qu'il fait, lui.
Beaucoup plus texturé et beaucoup moins pixelisé. Ce sera Japan Expo du 2 au 5, c'est à Paris Villepinte, plus deux autres auteurs qui seront encore à confirmer. C'est mignon, hein, quand même, l'essence de la vie comme bouquin.
Ben ouais, moi je trouve ça vraiment sympa. Et tu disais que c'est du pixel art en fait, c'est
ouais, tu regardes bien, c'est tout pixelisé.
Oui, on dirait que c'est du pastel gras, en fait non.
Non, mais moi j'ai l'habitude, c'est des gros carrés, des gros escaliers, tout ça. C'est on a l'impression d'être revenu justement. Ben je parlais de Team 17 et tout ça justement.
Tout ça
ces
parce que en fait c'est pas du tout une erreur de l'éditeur parce qu'ils ont pris des planches en petite résolution. Non, d'accord.
Non, non, c'est pas une erreur d'export sous Quark Express, mais à la fin. Il y a eu des gros éditeurs hein, qui se sont fait avoir. Il y a eu une case des Métabarons qui était sortie comme ça. Envoyée à la presse, ils n'avaient pas vérifié. Par contre, il explique tout à la fin justement la technique qui a été employée, mais il n'y a pas les liens justement dans une des doubles pages. On passe à tout à fait autre chose avec Elie Chouraki au scénario et Serge Fino au dessin. Serge Fino qui sera donc en dédicace la semaine prochaine avec L'étrangleur de Boston. Quand tu veux, toi. D'accord, le lecteur vient de planter. On est en direct, hein, que voulez-vous. Hop. Voilà, il s'agit donc d'une bande dessinée qui s'appelle L'étrangleur de Boston, qui est un one-shot qui est sorti dans la collection Serial Killer. Voilà, et comme je suis en train de bricoler, je peux pas passer l'effet en même temps. Zing, Serial Killer.
Zing.
Donc chez.
Tu veux un coup de main?
Ouais, non, je vais le boxer ce lecteur un jour. qui est sorti chez Soleil. Cela a commencé plus exactement par le meurtre d'une femme âgée qui a 70 ans chez elle, étranglée avec un nœud de chirurgien et mordue. Un meurtre sans raison, impossible de savoir si c'est un règlement de compte, une vengeance, un drame familial. Pas de valeur dérobée, pas de traces flagrantes à part des fractions, pas de cambriolage, rien. Derrière ce crime dont l'absence de motif semble être le seul point remarquable, commencera l'un des étés les plus chauds pour la police de Boston en ce mois de juin 1962. Car très vite aura lieu un autre meurtre, mais avec un autre détail sordide. La victime a été violée avec une bouteille. Puis une autre. On est bien dans un schéma de meurtre en série, et plus il commet d'homicides, plus il prend de l'assurance, attaquant à des femmes plus jeunes et allant plus loin dans le sordide. La panique s'installe auprès des bostoniennes et la police est désemparée, ou plutôt les polices, car les meurtres ont lieu dans plusieurs districts, Boston, Salem, Cambridge, ce qui veut dire plusieurs polices municipales, sans aucune coordination. Et pas le FBI derrière, puisqu'il ne s'agit pas d'un meurtre fédéral. Le procureur décide de nommer un avocat pour chapeauter l'enquête criminelle, ce qui froissera quelques susceptibilités et manquera de causer des conflits d'intérêts. Albert Henri de Salvo tuera 14 femmes, du moins c'est ce qu'il confessera, avant de se faire pincer. Il sera condamné à la prison à vie, mais jamais réellement jugé car reconnu mentalement dérangé. Excusez-moi, là je fais mon Christophe Omblat, et promis, mon cuir est bien posé là-bas.
Tu fais entrer l'accusé.
Voilà. La BD, mais ça on n'en sait pas plus puisque justement il est mort en prison. Il est mort en prison en 1972, poignardé sans avoir été réellement jugé. Voilà. La bande dessinée nous fait entrer dans les doutes de la police, les fausses pistes, les présumés coupables, les méthodes ésotériques et aussi la tête du tueur. Et toute la difficulté est là. L'histoire est dense, riche en rebondissements, mais la durée de l'enquête, 2 années complètes, laissant de grands moments de doute dans l'esprit des policiers. L'exercice imposé du 48 pages couleur donne un sentiment de résumé. Très bien rempli, trop saturant. Avec une densité d'événements qui donne peu le temps de souffler et manque parfois de précision sur les personnages. Il y a des personnages qui sont présentés. Bah non, justement, ils sont pas présentés. On connaît que leur prénom, on sait pas qui ils sont. Moi-même, j'ai dû un petit peu faire beaucoup de recherches pour trouver de qui il s'agissait dans la bande dessinée. On se demande qui intervient en qualité de quoi dans les scènes de dialogue, ce qui est finalement très frustrant. Car cette histoire, l'histoire de l'étrangleur de Boston, aurait mérité au moins le triple en pagination vu le talent de ses auteurs à nous tenir en haleine. Bref, un excellent résumé. Elie Chouraki au scénario, Serge Fino au dessin. L'étrangleur de Boston, dans la collection Serial Killer chez Soleil. Une collection qui parle justement de vrais meurtres.
Ouais, où on peut également trouver dans la même collection le Zodiac Killer, hein, d'après le tueur du Zodiac dont on a vu l'excellent film de
Fincher.
Ed Gein, bien sûr, hein, le boucher de Plainfield, qui a inspiré Robert Bloch pour son bouquin Psychose, qui a donné le film Psychose avec mais qui est une transposition. Hitchcock a voulu transposer un petit peu ce que Robert Bloch avait déjà fait. Et on a également le vampire de Sacramento.
D'après une histoire vraie aussi.
D'après une histoire vraie également.
Ah, je pensais que tu. Non, c'est parce qu'il y a un vampire. J'ai cru faire une humour en fait. Non,
non, non, le vampire de Sacramento qui est. C'est un type qui tuait des gens et qui recueillait leur sang pour le boire. parce qu'il croyait que ça le protégerait des aliens qui venaient pour conquérir le monde. Enfin, ah, okay, il était d'accord. Un petit peu azimuté, mais c'est un vrai personnage. C'est... Vraiment,
non, on parlera tout à l'heure de Star Trek. Mais
non, là c'est vrai. Hein,
c'est vrai, ouais. Mais oui, des histoires glauques, ça n'arrive pas qu'aux États-Unis. Il y en a aussi en France. Si vous regardez New York, Unité Spéciale, on en a parlé dans cette émission, dans la série des Law and Order. Souvent, il est question justement de faits divers sordides. Qui ont lieu en France et que les scénaristes recueillent dans le Nouveau Détective. Donc voilà. C'est là-dessus, c'est, je veux dire, c'est passionnant. Toi, tu as beaucoup plus d'informations, je veux dire, sur les Étrangleurs de Boston. Je crois que tu voulais parler, entre autres, du film et du bouquin.
Ouais, mais j'ai pas eu le temps de vraiment repérer les trucs. Je sais que c'est un film qui date de la fin des années 60 et dans lequel Tony Curtis interprète le rôle de DiSalvo. Et le film vaut d'être vu parce que la grosse partie du film, la partie qui est vraiment très intéressante, en fait, c'est l'interrogatoire et c'est les dialogues que peuvent avoir l'enquêteur et DiSalvo. Et la manière dont l'enquêteur va pouvoir faire craquer DiSalvo, pouvoir l'amener sur son territoire, et c'est ça qui est vraiment très très bien. Et on a un Tony Curtis qui est absolument magnifique dans ce film, hein, qui est vraiment très 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 bon. Hein.
Mais Curtis interprète l'inspecteur ou le...
Le tueur présumé. Non,
vraiment, hein, vraiment, excellent film. Qui s'appelle L'Étrangleur de Boston d'ailleurs.
Voilà, Serge Finot donc sera en dédicace samedi prochain, quelque part dans Toulouse, on ne sait pas où. On peut pas donner l'info, on n'est pas sûr. Donc voilà, sur un scénario d'Eli Shouraki, L'Étrangleur de Boston, collection Serial Killer, chez Soleil. Voilà, ça marche mieux. Y aura-t-il du sneaked aujourd'hui?
Un petit peu.
Ah, parce que le film est sorti.
Bah ouais, mais personne ne l'a vu, hein, ici, je crois.
Non.
Bah ouais, bon, ok. Mais par contre, le comic box numéro 58, putain, ça fait quand même pas mal, hein, de rien, quoi, est sorti.
50, ah ouais.
Ah ouais, ouais, non, là,
ah ouais, sachant vraiment qu'il y a eu une interruption de 2 années et demie, 3 ans quasiment.
Ouais, non, mais ça fait quand même pas mal.
C'est un bimensuel aussi.
C'est un bimensuel. Non, ça va. Bimestriel.
Bimestriel.
Bimensuel, c'est deux fois par mois. Bimestriel, c'est tous les deux mois. Et avec, bien entendu,
Wolverine.
Hugh Jackman en couverture. Alors, c'est pas un spécial Wolverine, hein, mais il y a la grosse partie sur l'historique de Wolverine. Un historique qu'ils avaient déjà fait dans un des premiers numéros de la nouvelle mouture de Comic Box. Enfin là, l'histoire nous est racontée par le biais de l'historique de la bande dessinée. Alors il faut savoir que Wolverine, au départ, Wolverine est apparu en 74.
Et c'est une bande dessinée.
Ouais.
Et c'est un personnage de DC Comics.
pas du tout.
Et
au départ, c'était vraiment un personnage mineur, hein, c'est-à-dire qu'il apparaît pas directement dans ce qui a été les New X-Men, mais il apparaît au départ dans quelques histoires de l'incrédible Hulk. Ou d'ailleurs, il se tape la gueule avec Hulk, avec Wendigo, enfin bon, et
c'est Hulk qui s'est fâché tout vert au Canada.
Et il apparaît d'ailleurs masqué, c'est-à-dire on connaît pas sa véritable identité, il apparaît sous son aspect de Wolverine, et encore, hein, c'est pas vraiment le même look au niveau fringue que le look qu'on connaît maintenant, hein, c'est-à-dire le truc un petit peu marron jaune, enfin bon, qui était plus ou moins stylisé. Enfin,
il était jaune et bleu.
Enfin bon, c'était un petit peu des couleurs pisseuses en plus. Enfin bon,
à l'époque, c'était à cause des procédés de reproduction. Hein.
Ouais, mais bon, c'était pas top, quoi. On le voit réapparaître. Alors, il est créé sous la plume de Len Wein, qui le crée, mais qui va vite lâcher l'affaire, hein, pour Dave Cockrum scénariste, et Chris Claremont, Dave Cockrum dessinateur, et Chris Claremont scénariste. Et là, eh bien, on décide de lui donner un semblant d'identité. Mais on sait toujours pas quoi en faire. C'est-à-dire que bon, au départ, quand il crée les New X-Men, c'est-à-dire vers le milieu des années 70, eh bien, c'est pour attirer un public qui est soi-disant jeune. Donc, on va mettre de jeunes super-héros. Or, Wolverine qui ne s'appelle pas encore Logan, on sait pas encore qui s'appelle Logan, est un personnage qui est vachement plus âgé. Donc on va le laisser un petit peu de côté, et dans les premiers épisodes où il apparaît en tant que plus ou moins membre des X-Men, c'est d'ailleurs un des plus faiblards du lot, hein. C'est dans la première histoire des X-Men et tout, il a 3-4 cases parlantes, c'est tout. Le reste du temps, bon bah il est là comme ça en arrière-fond, ok tu fais partie de l'équipe mais ferme ta gueule. Dans d'autres histoires, bah, c'est pas lui qui donne les coups fatals, c'est pas lui qui est le plus puissant et tout, mais bon, il donne un petit coup de main quoi, on va dire, hein, comme ça quoi. Hein, il fait le nombre quoi, et pas plus, hein, c'est tout quoi. Et il va falloir attendre quand même quelques numéros et pratiquement une année pour que Wolverine soit partie intégrante des X-Men à partir du moment où il est plus ou moins récupéré par le professeur Xavier. Et d'ailleurs, même dans les premières histoires, quand ils sont dans l'institut du professeur Xavier, quand l'institut à un moment se fait attaquer, c'est pas lui qui est là pour défendre l'institut contre l'attaque. Non, il reste plus ou moins sagement dans son coin, enfin j'exagère à peine, et ce sont également les autres qui vont défendre et qui vont combattre victorieusement les envahisseurs. Et il va falloir attendre encore un an ou deux ans pour que au détour d'une case et au détour d'une phrase, eh bien on apprenne que ce Wolverine, eh bien c'est en fait le vieux Logan. Et on commence à se dire, ah tiens, on commence à avoir une identité. L'identité va être créée en fait par le scénariste qui prend la suite de Dave Cockrum, à savoir John Byrne. Et comme John Byrne est canadien, il se dit, ah bah c'est pas mal, on a un mec qui, Wolverine, est un espèce de glouton, hein, c'est une bestiole genre très très méchante, genre Diable de Tasmanie, ouais, mais qui habite dans le Grand Nord canadien.
La traduction française à l'époque, c'était Serval qui est un félin, et en fait non. Hein,
non, et Serval justement, c'est un félin également méchant, mais qui vient d'Amérique du Sud.
Alors donc, ça a rien
ça
à voir.
C'est un petit peu mal, quoi. Mais bon, laisse tomber. On en a vu d'autres comme ça. Et donc, John Byrne, en tant que Canadien, se dit bon, ok, on va essayer de développer un petit peu ce personnage. Il a l'air intéressant. Wolverine commence à se construire une identité. On commence à lui construire une vraie identité et à le rendre à peu près intéressant sous la plume de John Byrne, et c'est lui qui va vraiment donner son essor au personnage, à tel point que, et là je vais sauter vraiment beaucoup d'épisodes, à tel point que maintenant Wolverine, eh bien c'est le personnage de l'univers Marvel qui est le plus représenté, qui a quand même pas moins de 4 mensuels qui lui sont dédiés, hein, avec Wolverine, avec Wolverine Origins, avec Weapon X et Weapon X First Act, donc First Class, donc ça fait quand même pas mal, en plus de ses apparitions bien sûr dans les X-Men, dans les Astonishing X-Men, dans de temps en temps les Puissants Vengeurs, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Donc ça en fait un des personnages centrales de l'univers Marvel quand même. Il a gardé très très longtemps, jusque dans les années 80, il a gardé le secret sur son origine, pourquoi il était comme ça, pourquoi il était devenu mutant. Tous les autres, on sait plus ou moins comment ils sont devenus mutants, accident nucléaire, irradiation au rayon gamma, j'en passe.
Le tout venant, quoi.
Enfin bon, voilà quoi. Mais lui, on sait pas comment ça se fait que il a le pouvoir de s'auto-régénérer, qu'il guérit de ses blessures, qu'il a un squelette en adamantium.
Oui, sauf que la mythologie des X-Men, ils sont pas devenus mutants suite à les expériences. Ils le sont depuis leur naissance. Donc oui, par rapport à Tornade, Cyclope, etc.
C'est génétique.
Voilà. Oui, c'est génétique, mais c'est quand même dû à un procédé physique qui les a transformés, quoi. Hein, après, bon, savoir si c'est intéressant ou pas, c'est un autre problème. Alors que lui, on ne sait pas. Et c'est cette espèce de mythologie manquante qui va être justement une des clés de la popularité du personnage. Et au contraire, quand certains scénaristes vont commencer à essayer d'expliquer le passé de Logan, le passé de Wolverine, c'est là que selon les scénaristes, on va se rendre compte que ils avaient plus ou moins liberté d'inventer plus ou moins le passé de Logan, mais on va bifurquer dans différentes directions, ce qui fait que au bout d'un moment le grand boss de Marvel, Stan Lee, va dire hop, stop, vous arrêtez là. On sait plus où on en est, il peut être là, ça peut être ça, non, vous arrêtez tout, Il faudrait mieux remettre tout à plat. Et on va
nouveau
quand même
numéro 1.
Ouais, ouais. On va quand même garder une origine qui paraît être la plus vraisemblable et qui avait été initiée, mais très 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 légèrement par les scénaristes antérieurs, vraiment de saupoudrer. Hein,
ouais, donc quand même un scénariste majeur. Celui qui... Ah putain, j'ai oublié le nom. Celui qui a fait 300 et...
Frank Miller.
Frank Miller, oui.
Frank Miller qui va prendre la suite de John Byrne. Hein. Mm. Frank Miller qui va justement poser un petit peu...
Qui va lui trouver son passé japonais, son passé de mercenaire et tout le reste. Hein.
Voilà, mais ça c'est au début des années 80 déjà. Là on est déjà au début des années 80, donc la donne a quand même vachement changé. Mais ce qui fait que... actuellement, maintenant, eh bien, et ça, ben, on l'a bien compris. De toute façon, il faut bien savoir, et ça, c'est l'anecdote qui a circulé depuis le début, à partir du moment où on a commencé à parler de mettre au cinéma le premier X-Men, une des raisons pour lesquelles les producteurs ont décidé de faire X-Men, c'est parce que, eh bien, un des producteurs était une productrice, et quand on lui a présenté, et qu'il ne lisait pas de comics, rien du tout, que dalle, qui s'intéressait pas à cette littérature pour gamins, quand on lui a présenté les différents personnages et tout, elle a flashé sur le ring, elle a dit, ah ouais, ah bon, d'accord, on le fait, alors, ça marche. Parce que, bon, bah, ok, il avait vraiment un espèce de look, Sauval, qui détonne par rapport aux autres. Hein. Faut dire que, bon, bah, dans son état.
C'est quelqu'un qui aimait bien les animaux. En fait.
C'est quand même le psychopathe de base. Hein, il faut dire ce qui est. C'est celui qui aime bien dégommer et tout.
Oui, pas autant ingérable que Hulk, mais quand même.
Ouais, mais quand même. Hein, bon, c'est quand même là des
et le sang chaud.
Ouais, le sang très chaud. Alors, il faut savoir que. Comme Marvel, comme les autres comics, DC et toute la bande étaient régis par le Comic Code, au départ, Wolverine ne tuait pas. C'est-à-dire que bon, ok, il n'y avait jamais de sang.
Hop,
tu dégages au récran et puis c'est bon, mais t'es pas mort, t'es juste assommé.
C'est pour de fou.
T'es dans le coma, mais t'es pas mort. Et c'est vers le milieu des années 80.
Finishing.
Grâce à Frank Miller d'ailleurs, que Wolverine a pu commencer à dégommer, mais vraiment très grave, c'est-à-dire à tuer au biais de certaines cases comme ça, quoi.
Ah bah ça pique les griffes.
Ouais, non mais bon, il était vraiment très très chaud à ce moment-là. Et
bah oui, c'est Frank Miller qui a plus ou moins dit à la Marvel qu'on pouvait se passer du Comics Code Authority. Qui d'ailleurs n'est pas une instance juridique, c'est juste
oui, mais c'est
consultatif.
Oui.
C'est juste consultatif, voilà.
C'est ça.
D'ici, il est resté quand même jusqu'à la fin des années 90.
Oui, mais le problème qu'il y a eu, c'est que bon, ben du fait de ce Comic Code, les scénaristes s'auto-censuraient d'eux-mêmes. Hein, ce que font également d'autres catégories socio-professionnelles dans le monde de l'art aux États-Unis. Hein.
Oui, c'est on parle bien du cinéma.
Au départ, hein, on se dit ah ben non, ça on peut pas le faire, c'est pas la peine. Avant même qu'une autorité de censure ait dit ah non, mais c'est trop dur ça, non, il y a trop de sang là, pas du tout, non, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir et tout team. Bref, le personnage en lui-même est de toute façon celui qui est l'un des plus intéressants au niveau de l'univers Marvel, ça. Avec peut-être je sais pas quoi, des gens qui vont préférer Hulk parce que Hulk a également ce côté très sauvage, surtout quand il se transforme en Hulk, hein, pas Bruce Banner, non, mais quand c'est Hulk quoi, et surtout dans les dernières livraisons du nouveau Hulk avec le fameux baston de Hulk vert contre Hulk rouge depuis qu'il est revenu sur Terre, parce que bon ben on lui a niqué sa planète quoi, il est pas content du tout. Là je digresse un petit peu. Voilà, en ce qui concerne donc Wolverine dans ce comic box, qui est d'ailleurs très intéressant, il y a encore, alors j'irai encore parce que il y a pas plus tard qu'il y a 4 ou 5 numéros, on nous a fait tout un topo sur le nouveau Green Lantern et on en remet une couche. Pourquoi ?
Non, j'aime pas le personnage, c'est
j'aime
tout.
J'aime pas le personnage.
Non, c'est mais le là... coup de j'ai une bague achetée dans un Kinder Surprise qui me donne
des super pouvoirs. Je sais pas, c'est tout ce vert là.
Oui, mais bon, bah justement, il n'y a pas que les Green Lantern, quoi. Il y en a d'autres.
Il y a aussi les Yellow, il y a aussi. Ouais.
Voilà. Alors, dans ce numéro, il y a également d'autres trucs intéressants. Et les interviews concernent des gens qui sont pas des cadors, on va dire. Qui sont pas des hauts de gamme, on va dire, mais qui sont quand même des mecs sérieux et tout. On a Jason Aaron, hein, qui a d'ailleurs fait du Wolverine, Jim Krueger, on a également Butch Geiss, et on a surtout, Et là, c'est très très intéressant. Melinda Gibby. Qui est Melinda Gibby? Eh bien, faut savoir qu'elle s'appelait Melinda Gibby. C'est une babosse qui est née à San Francisco dans les années 60-70 et qui a émigré un petit peu plus tard en Angleterre car elle a rencontré un monsieur qui avait l'air aussi azimuté qu'elle.
Ah, Madame d'accord. Moore. C'est la femme d'Alan
Moore. Et depuis 2008, depuis l'année dernière, civilement, ils se sont mariés. Bon, elle déclare dans l'interview que bon, bah, c'était pas tellement pour le fait de se marier, de s'appeler Madame Moore et tout ça, mais c'était surtout l'occasion de réunir plein de monde et de faire une super teuf
avec des rites magiques partout
et le dieu serpent
ouais.
Et donc l'interview là est très très bien hein, parce que bon bah c'est vrai que dans le numéro précédent on avait vu l'interview de la fille de Melinda Gibby et de
d'Alan Moore
et là bon bah ok quoi, on a la maman hein, et puis d'ailleurs on a une photo du couple
ah une photo ouais.
Tu vois le genre quoi.
D'accord.
Hein, c'est bon, ben ça fait Back to the 60s. Flower power à fond les manettes quoi.
Oui.
Tranquille.
Woodstock.
Ouais, ouais, à fond quoi. À fond,
avec
à fond.
Pour une fois, il a l'air de sourire.
Et ouais, bon. En plus, ouais, ouais.
Je me la fais pas mystérieux.
Il a l'air un petit peu radieux, on va dire quoi. Sans faire de jeu de mots. Il y a également la BD inédite qui est un Hellboy de Mike Mignola. Hein, toujours appréciable. Et celui que je voudrais pas oublier c'est bah ouais bah c'est, si non je pars le retrouver.
Je t'avais dit
tant pis.
Il y a pas la pin-up du mois, non ça c'est mais
non, la pin-up du mois c'est dans Mad Movies.
Oui voilà.
Ah en voilà au moins un qui suit. Ouais. Si il y a également
c'est sympa.
Il y a également le décryptage d'un comic book, à savoir un comic book qui vient de sortir, c'est le Old Man Logan Wolverine. Donc scénario de Mark Millar et dessin de Steve McNiven. Donc une double page sur justement bah, un Logan qui a été transposé dans le futur, qui est plus ou moins à la retraite. Tout le monde a été dégommé, tous les mutants, tous les super-héros sont morts pratiquement et tout. Mais malheureusement, bah, lui, bon bah il est un petit peu à la retraite, on va dire. Hein, c'est un Logan à la retraite, mais il va devoir reprendre du service. Un petit peu à l'instar de Impitoyable, Clint Eastwood, hein, le vieux chasseur de primes hein, qu'on vient rechercher et tout.
Ouais, il fallait pas le chercher.
Non, fallait pas le chercher du tout. Tout ça donc dans le nouveau Comic Box. Ah ouais, voilà. Il y a également cet article très intéressant sur le dessinateur que vous connaissez tous, Joe Shuster, le créateur
oui,
de
le
Superman. Qui dans les années vers la fin des années 50 et au début des années 60 ne dessinait plus Superman, mais par contre eh bien travaillait pour des petites productions on va dire qui étaient vendues sous le manteau. On comprend aisément pourquoi.
Oui, sous le manteau, oui.
Hein, parce que eh bien c'était
très orienté.
Non, mais il y a un bouquin qui est sorti aux États-Unis là-dessus, voilà. C'est pour ça.
Voilà, c'est parce que le livre vient de sortir, hein, écrit par Craig Yeo, Secret Identity, hein, The Fetish Art of Superman.
Craig Yeo, c'est un peu l'équivalent de Jean-Paul Jenkins, c'est un très grand historiste du comics.
Voilà, et donc là, bah, ok, hein, il a beaucoup dessiné des trucs avec des dessins genre sadomaso, un peu l'esprit de Gwendoline, hein, je sais pas si vous voyez un petit peu quoi, ça de. C'est ce personnage-là, hein, c'est-à-dire bon bah ok, hein, des mecs fouettés, des nanas en petite tenue, une nana suspendue en petite tenue au-dessus d'une une vasque à crocodile.
Ce que fait, ce que fait le bouquin justement, c'est un parallèle avec pas mal d'aventures de Superman, enfin ce qui arrive à Lois Lane plus exactement.
Voilà, parce que bon bah justement bah du fait du dessin caractéristique de Joe Shuster, de toute façon, on reconnaît vraiment les visages hein, des différents personnages de Superman.
Il est dit qu'il collectionnait les Tijuana Bibles. De Superman, c'est les Tijuana, les Bibles de Tijuana, c'est oui, les parodies de comics justement avec des scènes olé olé
même voilà, plus,
c'est avec Popeye qui mange des épinards pour faire grandir sa tub et tout le reste.
Alors le plus marrant quoi, c'est quand même que la préface de ce bouquin est de Stan Lee, et quand on sait que Superman est un personnage de DC, c'est quand même assez rigolo quoi.
Non, mais je crois que, Stan Lee s'était pas caché que justement il avait beaucoup d'admiration pour les origines justement, pour l'âge d'or auquel il n'a pas pu participer.
Oui, bien sûr. Mais
parce qu'il il les a lus.
Bien sûr, non, voilà. Mais on aurait pu demander à un des grands pontes de DC.
Je crois qu'ils sont pas d'accord.
Ils ne sont pas du tout d'accord. C'est-à-dire, bon, là, le personnage de Superman, indirectement, eh bien, on prend un coup dans la gueule, quoi. parce que bon bah hein, c'est la face cachée d'un des dessinateurs, d'un des créateurs de Superman donc et bon bah c'est on va dire c'est OK hein, faut replacer les choses dans le contexte hein, disons à l'époque c'était quand même vachement osé mais c'est pas de la pornographie quand même.
Oui, hein, maintenant c'est immontrable à des gamins de 10 ans quoi.
Ouais bah, là,
voilà. Enfin bon hein. Bah à l'époque c'était même pas exposable.
Non.
Eclectic Method, c'est un remixeur fou du net. Jusqu'ici, il faisait des petits remixes d'une minute.
Et là c'est plus long.
Là, c'est deux plus minutes. Long. 7. C'est autant Tarantino. Pour voir les images, vous allez sur le site supplémentweekend.fr, vous allez dans les chroniques et vous cherchez Tarantino Mixtape. C'est une claque.
Look, I don't need you to tell me how fucking good my coffee is, okay? You gotta make some phone calls. You gotta call some people.
Hello, it's for you.
Hello.
Hello.
Mushmushy.
What?
I'm in big fucking trouble, man.
Hey, don't start bugging him.
We got a major situation here.
Whoa, hold your horses, man.
I'll tell you, you started the goddamn Chicago fire. Now that don't necessarily make it fucking so!
Please let me. It's a sex thing.
Sex thing.
Touch my heart.
Hence, like a virgin.
Push that woman man thing too long and it gets you out. You know, 4 years fucking punks up the ass. You appreciate a piece of prime rib.
Fuck massage.
Foot massage. Maybe your method of massage differs from mine. Foot massage. I'm the foot fucking master.
Charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness.
for he is truly his brother's keeper and the finder of lost Jews. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
Tarantino mixtape par Eclectic Method. Ce qui est très intéressant à voir dans la vidéo, c'est justement c'est du cut-up. Et il n'y a pas que la bande-son, il y a surtout tous les tics de Tarantino qui se recite lui-même dans les scènes de ficelles qu'il a déjà utilisées, qui sont mis bout à bout. Et c'est impressionnant.
Oui, l'autocitation, puis même Tarantino est connu aussi pour avoir développé des fausses marques à l'intérieur de ses films, comme la marque de cigarette, je crois que c'est, je sais plus ce que c'est comme marque de cigarette. Il filme toujours la même marque de cigarette selon, dans tous ses films. On en discutait en off, justement, le plan contre-plongé dans le coffre quand les gens ouvrent le coffre de la bagnole, où il y a beaucoup de tics, effectivement. Ouais.
Donc voilà. Thomas! Eh ben... Est-ce que, alors, HK ou traditionnel?
Non, traditionnel.
Traditionnel, d'accord. Ok, on y va! La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Stereo Surround.
Alors tout à l'heure, avant la partie comics, on parlait des psychopathes. Alors là, c'est vraiment la droite lignée, hein, puisque si vous êtes amateur de films glauques, noirs, de chez noir, avec des psychopathes et le film qui te fout bien le cafard et que t'aimes bien avoir l'adrénaline et les tripes qui le palpitant qui fait pop 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 pop, donc il faut aller voir The Chaser. Donc le chasseur, hein, je me semble en anglais, Chase, c'est la traque. Un film de Hong Jin-na, donc ouais, c'est
le tracker, hein, parce que
le tracker.
La chasse c'est Hunt.
Hunt, oui, tout à fait. Bah le tracker alors. Un film de Hong Jin-na et c'est coréen, donc avec Kim Young-seok, Ah Jung-woo, et c'est un film qui a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2008, sélectionné en hors compétition. Alors ça raconte l'histoire de Jun Oh-eom, qui est un ancien flic devenu proxénète. Et lorsque ces prostituées commencent à disparaître les unes après les autres, il remarque qu'elles avaient toutes rendez-vous avec le même client. Il met rapidement la main sur ce client mystérieux et le soupçonne d'avoir revendu les filles. Alors d'abord pressé de les retrouver pour récupérer l'argent qu'il leur avait prêté, Ils découvrent progressivement que la réalité est beaucoup plus atroce et qu'elles n'ont pas été revendues. Une course contre la montre commence à la recherche de Mijin, la prostituée séquestrée et laissée pour morte, qui constitue un peu le fil rouge du film. Bon, alors voilà, c'est un film coup de poing, un choc. C'est le genre de film qui te hante pas mal de jours après, t'y penses assez souvent. Il fait partie de cette catégorie de films coréens qui a vraiment fait un choc avec Old Boy et Memories of Murder. Justement avec... pardon.
Tu vas y arriver.
Avec cette sorte d'animalité qui anime un peu les acteurs coréens. Parce que tu vois, un peu le personnage principal de Memories of Murder, l'acteur principal de Old Boy.
Il ne sait pas de faire beau gosse, contrairement aux japonais. Hein.
Voilà, et ouais. Et puis ils en font le chiffre, vraiment, c'est un peu dégrassouillé. Enfin, surtout les acteurs principaux de ces films-là. Et c'est le cas aussi pour l'acteur principal de The Chaser. Ce sont des gens qui sont très à l'aise avec leur corps et qui jouent vraiment la tension. Ce sont des gens qui transpirent, qui soufflent comme des porcs. Après, quand ils courent un criminel, ils sont essoufflés. C'est pas comme à Hollywood où le mec est capable de faire 30 000 sauts pour échapper à des trains ou des trucs comme ça. Là, vraiment, c'est. Puis en plus, c'est accompagné par une mise en scène nerveuse. Tu vois que ils sont pas là pour rigoler, et puis même s'il y a quelquefois des petits moments de décalés pour les amateurs vraiment qui ont l'habitude de ce genre de film asiatique, ça les fera pas du tout sourire, mais c'est pas mal. Bon, les gens qui ont, moi je l'ai vu dans une salle, à chaque fois que le mec se cassait la figure, c'est pas fait pour rigoler, tout le monde était mort de rire. Bon, c'est l'inévitable décalage quand il y a des gens qui sont pas habitués trop au code du cinéma asiatique et aussi également coréen. Bon. Donc ce qu'on pouvait dire sur le côté physique du film, et puis surtout au niveau scénario, mais c'est un scénario noir de chez noir qui ne laisse aucune place pour l'optimisme. Et dès que tu vois peut-être une éclaircie, paf, reprends-toi ça dans la gueule. Ah ouais, j'espère que ce méchant il va bien bouffer. T'as le méchant, c'est un gars filiforme, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. C'est ça qui est aussi atroce dans les films coréens, c'est-à-dire que le Memories of Murder, c'était un film d'après une histoire vraie avec un criminel qui n'a jamais été arrêté, et c'était le suspect numéro 1 dans le film était incarné par un gars qui est tout genou, qui faisait qui est très longiligne, et tu donnerais le bon Dieu sans confession lui aussi. Le méchant de Old Boy, c'était pareil, c'était un gars qui est propre sur lui en costard, qui avait un sourire
et
un peu sardonique,
et qui mange du poulpe frais.
Non, ça c'est gentil, ça.
C'est gentil. Pardon.
Et dans The Chaser, c'est pareil. Le méchant, c'est pas le méchant patibulaire cartoonesque qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Là, l'affrontement entre les deux, c'est vraiment dantesque. Et puis le méchant, en fait, quand il avoue le meurtre de des prostituées au départ. C'est au tout début du film, c'est au bout d'un quart d'heure, il est arrêté dans un commissariat, il est soupçonné de les avoir revendus, alors tu les as revendus, alors déjà d'abord, comme le proxénète, c'est un ancien flic, bon c'est un gars un peu qui m'a propos sur lui et tout, donc les gens, ouais non, toi t'es toi, t'as tabassé le mec, t'aurais pas dû le tabasser, ouais mais il a enlevé mes filles, alors bon tu les as revendus, moi non je les ai pas revendus, non, je les ai tués, hein, ouais je les ai tués. Et il te le balança dans un naturel, et là t'as le film qui commence parce que le spectateur, lui, il a vu ce qu'il avait fait avant, mais là il y a plus personne dans le film qui croyait qu'il pouvait les avoir tués. Tout le monde disait, ouais, allez, tu les as revendus à qui, allez, on voit bien que t'es pas capable de buter qui que ce soit. Et puis après, il y a des entours aux enfers, t'as le proxénète qui enquête pour essayer de retrouver la trace de sa prostituée, et il comprend que, ah oui, le mec qu'on a arrêté, c'est peut-être qu'un gars qui est capable de ça, il va enquêter sur sa famille, ce qu'il a fait avant, ah ouais, t'es un sacré malade toi en fait, Et le film, ça tabasse. C'est le personnage principal, d'abord motivé par l'argent, parce qu'il avait prêté de l'argent aux prostituées, donc c'est pour ça qu'il voulait retrouver. Finalement, après, il va commencer à s'occuper de la petite fille de la disparue, et puis dans une progression vraiment pas mal dans le film, à la fin, il veut juste la retrouver pour ramener sa maman à la petite fille, parce qu'il va devoir jouer au père de substitution, un gars qui était au départ cynique, il collectionnait les téléphones portables, il pensait qu'à l'argent et tout. Au final, c'est un film, franchement, je continue à y penser encore, ça fait 10 jours que je l'ai vu. Si vous aimez le film costaud et si vous n'avez pas peur du gore, enfin de l'effet gore, parce que pas grand chose n'est montré dans le film,
C'est vraiment impressionnant par le montage.
C'est du lourd. Ce qui impressionne, je vais finir là-dessus, c'est le premier film. Ça calme.
Donc c'est Ouais.
Voilà, le mec, voilà, il a fait coup de maître, premier film. On va suivre sa carrière. C'est un gars qui s'appelle Hong Jin-na et c'est The Chaser qui est encore à l'affiche à Toulouse, peut-être uniquement à l'Utopia.
Eh oui, il fallait que je passe le tapot horaire avant et ensuite on enchaîne derrière avec ce que tu voulais.
Space. The final space. Frontier.
The final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Bonjour.
Ah, pour une fois qu'on a un son de meilleure qualité que les bandes de version française, on découvre toute la richesse d'interprétation quand même. Hein. Ça valait mieux que les films de série B de l'époque.
T'as Captain Kirk au téléphone. Star Trek, donc, le film sort mercredi sur vos écrans avec la distribution que tout le monde connaît, la bande-annonce qui dépote à fond les manettes que vous avez vu, qu'on se dit mais c'est pas ça Star Trek d'habitude, c'est vachement plus mou, hein, y a pas tellement d'action dans ces trucs-là et tout, quoi. Et on se rappelle, bien entendu, la tripotée de films qui sont sortis, hein, dont le premier de Robert Wise en 79, plus tous les autres, les quatre...
Excuse-moi, je voulais couper le micro de Thomas. C'est qu'en fait, il y a une Thomas se fait fesser en ce moment en direct. Alors, on va le passer d'ailleurs à l'antenne, tiens. Zou. Alors donc, on a un auditeur au téléphone, voilà. Donc, tant pis, non, on peut pas le prendre là. Donc en fait, qui disait que ça passe aussi au cratère.
Ah bah oui, bah c'est voilà, une bonne indication, c'est très bien.
Du 20 mai au 9 juin. Donc.
Ouais, donc Star Trek mercredi sur vos écrans. Et comme la mythologie Star Trek, maintenant tout le monde commence quand même un petit peu à connaître avec tous les films qui sont sortis au cinéma, hein, que ce soit la première mouture, les deux issues de la série originale ou les moutures suivantes sorties après la sortie des séries dérivées, on va dire, hein, des séries qui ont suivi. On va faire un petit topo sur les séries les plus marquantes de ce qui a révolutionné la science-fiction à la télévision, hein, car il faut quand même dire que c'est la toute première série de science-fiction à être apparue à la télé, qui a d'ailleurs encouragé pas mal de vocations.
Il y a Doctor Who avant.
Oui, non, mais je parle des États-Unis, qui a encouragé certains, et bien justement quoi, à mettre qui a mis le pied à l'étrier à certains, hein, qui a encouragé leur vocation, et pas des moindres. Hein,
c'est vrai que la quatrième dimension, on peut plus la classer en fantastique. Mais il y a des scènes de science-fiction dedans.
Oui, mais ça dépend des épisodes. La quatrième dimension, c'est un petit peu spécial. Ça dépend vraiment des épisodes. Alors Star Trek, créé par le grand, l'immense Gene Roddenberry, paix à son âme, hein, d'ailleurs, qui a eu l'immense honneur, hein, que ses cendres soient répandues dans l'espace.
La moitié seulement. Hein.
Oui, bon ben ça c'est ok, on s'en fout de ça quoi, de toute façon quoi. Le premier épisode était diffusé à la télé sur NBC le 8 septembre 1966 et il a fallu attendre 16 ans pour que on puisse voir Star Trek à la télé française. 26 décembre 82 sur ce qui a devenu
ça a été aussi tardif.
Ah oui. Et pour une série qui a pas tellement marqué à l'époque, hein, il n'y a eu que 3 saisons, il y a eu 79 épisodes au total de 50 minutes et qui vraiment n'a pas été vraiment un carton. il faut dire, avec ben, les personnages que maintenant tout le monde connaît. Alors le quiz commence là, indirect. Hein, question que je vous avais déjà posée.
Attends, parce que là il faut mettre bien évidemment le fond sonore. Et donc c'est parti.
Avec le capitaine James T. Kirk, interprété par William Shatner. Que signifie la lettre T?
Tiberius.
Ah ben voilà, vous avez suivi, c'est bien. Ensuite, on a bien entendu Leonard Nimoy dans le rôle de Monsieur Spock. Leonard Nimoy qui fait une apparition dans le nouveau Star Trek parce que, eh bien, dans le nouveau Star Trek, Spock est interprété, le jeune Spock est interprété
Sylar.
Par Sylar Zachary Quinto. Et ben il a quand même une conversation avec le vieux Spock.
C'était comment avant? C'était en carton pâte.
Ouais. Alors d'autres, Dr McCoy interprété par
c'est pas William Shatner,
De Forest Kelly. Ah, on a également le prénom que je trouve toujours vachement rigolo, le prénom de Uhura, c'est Mademoiselle.
C'est Lou.
Non.
C'est pas un truc comme ça.
C'est Nichelle Nichols. C'est pas Michelle, c'est Nichelle Nichols. Ensuite, on a également Scotty. Beam me up, Scotty. Vous connaissez.
C'est le mécano.
Scotty, c'est Beam me up, Scotty. Ça veut dire,
voilà, ça veut dire téléportation.
D'accord.
Ok. On a l'infirmière Christine Chappell, interprétée par Majel Barrett, qui allait devenir Majel Barrett Roddenberry. Madame Roddenberry, et qui allait d'ailleurs poursuivre l'œuvre de Roddenberry une fois que celui-ci était décédé. Hein. C'est elle qui a continué à porter la franchise et à.
Et c'est elle qui a produit les films. Hein,
qui produit les films, qui a produit les séries qui sont sorties après que Jane Roddenberry soit décédée.
Juste une précision, Scotty est incarné dans le film par Simon Pegg, qui est incarné Shaun of the Dead.
Oui. Et on a également Tchekhov, hein, comme personnage vraiment très régulier. Alors que, bizarrement, Tchekhov n'apparaît que au début de la seconde saison. Il n'est pas dans la première saison et interprété par Walter Koenig.
À noter que l'acteur s'est marié tout récemment. C'est le premier mariage homo de Californie. Qui venait tout juste d'être légalisé. Il a été le tout premier.
Non, je pense que tu parles de Sulu.
Ah mince, c'est Sulu.
George Takei.
Ah merde, je me plante.
Non, c'est George Takei, hein, qui.
C'était la question.
Voilà, ouais. Alors dans cette série originelle, eh bien on a quelques guest stars qui vous diront
je laisse
quelque
le
chose
fond là ou quoi
vaguement
hein, le fond du quiz peux.
Non parce que bon ça va être au fur et à mesure quoi.
Ah d'accord.
Façon, quoi. quelques guest stars qui sont apparus quoi. Jeffrey Hunter, ça vous dira certainement pas grand chose. Joan Collins, Jill Ireland qui allait devenir Madame Charles Bronson, David Saul dans l'épisode de la pomme, Robert Walker, Sally Kellerman. Lèvres de feu dans MASH. Et Ricardo Montalban, dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, vu qu'il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qui interprète bien entendu quand. Au niveau des scénaristes, c'est là que c'est très très lourd. Parce que, en plus d'avoir des scénaristes qui étaient les scénaristes réguliers de la série, on sait que bon, bah, le pilote a été bien entendu écrit par Jane Roddenberry qui allait écrire d'autres épisodes. Les scénaristes réguliers, Leslie Kuhn, il y a également DC Fontana qui est une dame, une jeune fille, hein, aucun lien de parenté avec Tom Fontana d'ailleurs. Mais il y a également de grandes plumes de la science-fiction et du fantastique, Richard Matheson, Robert Bloch, dont j'ai parlé avant, hein, qui a écrit Psychose, mais qui a également écrit Outre des Polars, qui a écrit également dans la science-fiction. Je crois que c'est lui qui a écrit Martien Go Home, d'ailleurs. Quoi. Theodore Sturgeon, Harlan Ellison, Norman Spinrad, n'en jetez plus, ça ira, c'est déjà pas mal. Ça,
c'est du lourd.
Ouais, c'est quand même du lourd. Alors, la première série, bon, bah, ok, quoi, maintenant, elle se voit en rigolant un petit peu, quoi, en se disant, ok, quoi, les bonhommes en pyjama, on a bien donné, ça va.
Avec les effets spéciaux mal découpés et tout, qu'ils ont osé remasteriser.
Ça vaut le coup. Par contre, il y a une chose, il y a un truc qu'il faut absolument repérer, on l'avait repéré sur le net, mais il y a très très longtemps, il y a 7 ou 8 années, hein, c'est le bêtisier de Star Trek, la série originale, qui est absolument hilarante, hein, c'est-à-dire les.
Je sais pas.
Si, les plans qui ont été coupés, les. les scènes qui n'ont pas été gardées parce que les mecs éclatent en fou rire, enfin bon, les trucs habituels que t'as l'habitude de voir maintenant, hein, les toutes les stock shots que t'as l'habitude de voir dans bon les la fin des films de Jackie Chan ou bon des trucs comme ça,
oui, ou aux enfants de la télé,
oui, aux enfants de la télé, eh bien le Star Trek Verse Original vaut son pesant de cacahuètes. Donc à noter qu'on n'a même pas parlé de la musique, hein, le thème musical est d'un certain Alexander Courage, donc hein, qui est resté dans l'histoire de la musique grâce à son thème qui est maintenant devenu complètement immortel. Donc Star Trek créé 66 mais qui n'a duré que 3 saisons, donc avant 70 il n'y en avait plus, et il a fallu quand même attendre, eh bien
10 ans,
20 ans.
Attends,
près
d'abord
de 20 ans.
D'abord, il y a eu les films.
Ah, d'abord, il y a eu les films. Hein, on va parler du premier tourné en 79, enfin sorti en 79, tourné par, réalisé par Robert Wise, qui est vraiment très très bien.
Je savais pas du tout que c'était Robert Wise qui avait fait.
Ah, si. Mm-hmm.
En plus, c'était en pleine période Star Wars, hein, entre les deux premiers épisodes.
C'était entre.
Le premier était sorti en 77, le deuxième en 80.
Mais le film a été financé, c'était pas par CBS, je crois que c'était par ABC. Qui est financé derrière dans l'espoir de relancer pour concurrencer Buck Rogers. Buck Rogers d'un côté et puis de l'autre Battlestar Galactica, ils se sont dit ce serait bien de relancer par un film avant de lancer la série, et ça s'est pas fait.
Par contre, bon, il y a eu d'autres films, hein, toujours avec l'équipe originelle, donc La Colère de Khan, le deuxième film, puis les autres avec le 4, l'histoire des baleines.
Il y a eu À la recherche de Spock dans le 3, comme voilà. Spock qui est tout gamin.
À noter que celle qui a réalisé ce film, où quand même on a une explosion sur une planète, etc., elle a fait l'un des téléfilms les plus connus aux États-Unis des années 80, la meilleure audience d'ailleurs pour un téléfilm aux États-Unis, qui concernait en fait les États-Unis ravagés par la bombe atomique, par le feu nucléaire. Et elle a dit qu'elle aurait su, parce qu'elle en a été malade quand même, la production de ce téléfilm, elle aurait tourné totalement différemment justement le Star Trek. Pour montrer justement ce que c'est qu'une dévastation.
D'accord.
C'est étonnant.
Et donc il faut attendre 20 ans tranquille pour qu'une nouvelle franchise Star Trek voit le jour. 26 septembre 87, Star Trek Next Generation, qui a été dépassé depuis, il faut le dire, hein, par Stargate, hein, mais qui jusqu'à la sortie de Voyager, eh bien, a été la série de science-fiction qui a eu le plus grand nombre d'épisodes, 176 épisodes au total répartis sur 7 saisons. C'est quand même énorme, vraiment énorme.
Avec des citations récurrentes à Shakespeare, d'ailleurs, qu'ils ont repris après dans les films. C'est un peu étrange, d'ailleurs, hein, comme truc.
Tout à fait. Alors, toujours le même générique de début, hein, c'est-à-dire toujours la
celui-là.
Même musique. Hein.
C'est celui-là.
Par contre, le crew, c'est-à-dire l'équipe, a entièrement changé, bien sûr. C'est la Next Generation.
Ils ont pris un surgelé français.
Avec Patrick Stewart, commandant Picard. Alors, c'est pas...
Professeur X.
Non. C'était pour rendre hommage aux Français Auguste. Jean-Luc et Auguste Picard. Hein, qui ont été français ou suisses d'ailleurs, je me rappelle pas exactement, hein, qui ont inventé entre autres, eh bien, le scaphandre de plongée en collaboration avec le commandant Cousteau, hein, qui ont inventé le truc qui allait devenir le bathyscaphe, c'est-à-dire l'espèce de truc pour descendre très 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 profond dans la mer, qui était un inventeur vraiment qui justement dans le même esprit que Star Trek est allé là où personne n'était allé avant. Hein, qui cherchait justement à développer plein de trucs et dont on connaît encore le fils, hein, qui a fait quelques petits records au ballon et de petites choses comme ça, quoi. Je me rappelle pas son prénom, mais qui est également un des descendants de cette famille Picard. Et c'est pour rendre hommage donc à cette famille Picard que Gene Roddenberry a décidé d'appeler le commandant du nouveau vaisseau le commandant Picard, interprété par le magnifique Patrick Stewart. On a Riker interprété par Jonathan Frakes, qui d'ailleurs allait réaliser plusieurs épisodes histoire de voir un petit peu comment ça marche, et qui par la suite allait tourner plusieurs films de la nouvelle mouture de Star Trek, pas les meilleurs, on va dire, hein, non, franchement
c'est franchement difficile, hein.
Parce que bon, il faut bien dire qu'au niveau des films, à partir de Next Generation, quand on a voulu justement passer la
problème,
main...
c'est que le 4 était justement très humoristique. Ouais, et ouais, à partir de là, ils ont essayé de refaire un truc un petit peu plus. Il y en a peut-être un, je crois que c'est le 6 ou le 7, quand ils se retrouvent dans la Terre du passé, juste avant qu'ils inventent le voyage spatial, qui est peut-être intéressant après.
Ouais, il y a également bon, bah, le Next Generation, le Star Trek Generation, c'est-à-dire le film qui fait la transition entre les l'ancienne deux équipes. Équipe et, enfin, l'ancienne équipe, surtout William Shatner, et la nouvelle équipe, c'est-à-dire le commandant Picard, hein, qui est un petit peu intéressant avec un Malcolm McDowell qui cabotine à tout va dans le rôle du méchant. Enfin, ça, on a l'habitude avec Malcolm, il n'y a pas de problème, c'est pour ça qu'on l'aime bien. D'ailleurs, on a également Data interprété par Brent Spiner, Georgie LaForge interprété par LeVar Burton. Qui est LeVar Burton? Dans quelle autre série dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça?
Law and Order?
Ah, pas du tout.
Lena Burton.
LeVar Burton.
LeVar Burton.
Alors, je vous donne une indication.
Allez.
Il est black. Tic, tic, tic.
Dans un film?
Tic. Non, dans une série.
Dans une série, il est black.
Il est black, c'était pas Arnold et Willy?
Ah non.
Une série inédite là ou...
Non, dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, vu que Arte a rediffusé l'intégralité de cette série il n'y a pas si longtemps que ça.
Sarsky Hutch, non.
C'est pas Berlin, Brigade Criminelle.
Ah non.
Ah, dans le Nord et le Sud.
Presque. Tu es sur la bonne voie.
C'est attends.
Alors l'autre série.
L'autre série, ah ben oui, c'est pas la couleur poupe, c'est Racine.
Voilà, Roots.
Ah,
Kunta Kinte. Kunta Kinte, voilà, LeVar Burton. Et on a également Denise Crosby qui interprète le rôle de Tashaya. Voilà pour les rôles principaux dans cette série, mais également des rôles relativement réguliers, des personnages récurrents qui vont revenir d'une saison à l'autre, mais pas systématiquement dans chaque épisode. Whoopi Goldberg dans le rôle de Guinan, John Delancey magnifique dans le rôle de Q, qui est, on va dire, c'est un peu le Moriarty du Capitaine Picard dans Next Generation.
C'est le Némésis.
C'est la Némésis du Capitaine Picard. Et d'ailleurs, il est très très fort, hein, y a pas de problème. Cole Meaney dans le rôle du chef O'Brien. Alors Cole Meaney qui au départ fait une apparition en tant que pratiquement figurant, il a je crois 4 lignes de dialogue et puis point, mais où il joue le rôle d'un garde ou vraiment d'un personnage secondaire, mais quand même c'est comme Linné, il faut quand même lui donner quelques petits trucs, quelques répliques à dire, et qui va devenir récurrent dans le rôle du chef O'Brien. Et on a également, alors là c'est plus étonnant, c'est peut-être un hommage qui a été rendu à cette excellente série qui était The A-Team, il y a Dwight Schultz qui joue le rôle
Looping.
De Looping, tout à fait, quoi. Donc qui fait son apparition dans pas mal d'épisodes. Donc après, au niveau des guests de cette Next Generation, il y a beaucoup d'acteurs ou d'actrices qu'on a vu qui n'ont pas fait une grosse carrière au cinéma comme d'habitude, mais qui se cantonnent plus au rôle de télé, mais qui sont pas plus mauvais que d'autres. Bébé Neuwirth qu'on a vu dans New York Cour de justice, Rosaline Chao, on a Michelle Forbes qu'on a vu le partout, David Ogden Steers, Tony Todd le Candyman, Ashley Judd qui à l'époque n'était pas tellement connu, Leonard Nimoy donc dans l'épisode Unification saison 5, Denise Crosby je l'ai déjà cité, Liz Vasset qui jouait dans The Tick qu'on a vu dans Maximum Bob.
Oui. Pas mal.
Kelsey Grammer avant qu'il commence sa série sitcom à succès Frasier.
Bah, Kelsey Grammer, c'est le fauve aussi dans X-Men 3.
Ouais, mais là, il était déjà connu. Hein. Là, c'était Frasier, donc ok, on savait qui c'était. Mais à l'époque, non, pas du tout. David Warner, Benito Martinez, qui est le capitaine Acevedo dans la série The Shield. C'est le patron de Michael Chiklis.
Il est peut-être connu, lui, d'ailleurs.
Stephen Hawking dans son propre rôle. Hein, avec le fauteuil roulant et tout ça.
Pas mal.
Kirsten Dunst.
Ah ouais.
Madame Spider-Man,
ouais.
Terry O'Quinn qu'on a vu dans toutes les productions de
J.J. Abrams, ouais.
Paul Sorvino, le papa de Mira,
et Monsieur Mafieux.
Oui, non, mais c'est également lui qui a interprété, qui a été le deuxième inspecteur aux côtés de Jerry Orbach dans la série New York Police Judiciaire.
Ah bon.
Le premier, c'est George Junza qui a tenu une saison, et Paul Sorvino, eh bien, apparaît dans la saison 2 aux côtés de Jerry Orbach, qui sera remplacé d'ailleurs par
Mr. Big.
On a également Mark Rolston qui a été le faux serial killer dans la série Profiler Rappelez-vous.
Oui, tout à fait.
Et, et encore pas mal d'autres. Hein. Bon, ben, je les ai pas tous mis ceux-là. C'est ceux qui sont quand même les plus connus, quoi. Mais bon, il y a quand même une grosse tripotée de bons acteurs et actrices dans Next Generation. Alors, dans Star Trek Next Generation, on va parler un petit peu des aliens. Alors, vous allez me citer le nom des différentes nations aliens qu'il peut y avoir dans Next Generation.
Alors, les Klingons.
Ouais, bon, ben, ça, c'est les premiers, il n'y a pas de problème.
Non, avant ça, il y a les Vénusiens. Non. Je me suis trompé. Mais qu'est-ce qu'il est Spock déjà?
Les Vulcains.
Les Vulcains. Putain.
Ok, ça c'est les plus connus. Mais les Vulcains dans.
Non, les Vénusiens pètent à table.
Il y en a pas tellement. Il y en a pas tellement justement.
Ils sont tous humanoïdes.
Les Klingons de la Next Generation sont un petit peu l'équivalent des Vulcains dans la Star Trek originale.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc, mais on a également les Ferengi. Les Cardassiens, alors ceux-là ils sont très très méchants. Les Romulans qui eux, bon ben ils sont bon pas à voile à vapeur, mais enfin bon c'est un couche avec toi, un couche contre toi, c'est vraiment pour tout pour ma gueule.
Il y a les Goa'uld aussi.
non mais ça c'est les Target. et surtout hein, ceux qui ont été les personnages principaux, les méchants principaux du seul film vraiment intéressant de la nouvelle mouture de Star Trek, c'est le Star Trek First Contact, à savoir les Borg. Hein, qui eux sont vraiment très très.
C'est des Suédois donc.
Ouais.
Non, c'est. Le problème des Borg, c'est que c'est des robots. Enfin, c'est une intelligence artificielle qui capture les. Donc en fait, c'est plusieurs races aliens hein, dans l'histoire.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ah.
Il faut noter que, outre Jonathan Frakes qui a réalisé pas mal d'épisodes dans Star Trek Generation, il y a également Patrick Stewart qui a réalisé quelques épisodes. Ouais. Et. Également,
pas forcément les meilleurs,
LeVar ouais. Burton. À partir de la saison 3, ils ont commencé à se dire que ce serait pas mal d'instiller quelques cliffhangers de fin de saison, histoire que les gens puissent revenir la saison suivante.
Pour faire comme les autres, quoi.
Bah non, ça commençait à être à la mode.
Et donc,
c'est plutôt ça.
Et donc, le passage de la saison, à partir de la saison 3, fin de la saison 3, eh bien, ce sont des épisodes qui sont en deux parties. Le premier épisode, fin de la saison. Deuxième épisode, début de saison suivante. La saison 3 et 4, un des meilleurs, hein, si on excepte le pilote de Star Trek New Generation, Welcome to Farpoint, c'est the best of the both worlds, part 1, part 2, hein, c'est-à-dire fin de la saison 3, début de la saison 4, qui fait partie des meilleurs épisodes de l'ensemble de la série. On a pour la saison 4-5 Redemption, justement, où Tony Todd dans les deux épisodes, dans la saison 5 et 6 et début de saison 6 Time's Arrow, et dans la saison 6 ou 7 le double épisode Descent, donc une habitude qui avait été prise par les scénaristes de cette Next Generation. Scénaristes dans lesquels on trouve un certain Ronald D. Moore qui a écrit pas mal d'épisodes pour cette Next Generation et qu'on trouve maintenant aux commandes d'une autre série de science-fiction qui cartonne à fond les manettes, Battlestar Galactica, la nouvelle mouture. Ensuite, après Star Trek Next Generation, eh bien... on s'est dit que bon, bah, y en avait un petit peu marre hein, d'exploiter le thème d'un équipage qui part sur un vaisseau et qui va essayer de zoner un petit peu partout, soit rétablir la paix dans l'espace, soit essayer de gérer les
conflits. La paix, on l'emmerde.
On s'est dit bon, bah, ok, bah, on va voir si ça peut intéresser les gens, le fait d'avoir une station spatiale, d'avoir cette espèce d'effet d'éloignement que peuvent ressentir les gens qui sont coincés à l'intérieur d'une station spatiale et qui voient défiler un petit peu l'ensemble des peuples et des différents mondes qui peuplent l'espace. Et donc, on a assisté à la création de Star Trek Deep Space Nine. Deep Space Nine, c'est le nom de la station orbitale hein, sur laquelle évoluent donc les différents personnages et qui a démarré à partir de janvier 93 aux États-Unis, bien entendu 5 saisons au total pour Deep Space Nine avec comme caractère personnage principal, Benjamin Sisko, le commandant Benjamin Sisko, interprété par Avery Brooks. Odo, c'est René Auberjonois. O'Brien, bah justement, on retrouve O'Brien, Cole Millet, qui était déjà dans Next Generation, et là il a vraiment un rôle récurrent, toujours le même dans cette DS9. Dax, Jadzia Dax, interprété par Terry Farrell, et Worf, Worf qui est donc
un Vulcain,
un Romulan, je crois. mais si je me plante, de toute façon, je vais me faire tuer. interprété par Michael Dorn, avec là également des guest stars qu'on connaît surtout dans le monde de la télévision, on va dire, hein, Gordon Clapp, inspecteur Medavoy dans New York Police Blue, Jonathan Banks, rappelez-vous.
Moi je peux pas, je me suis pris un coup dans les oreilles là, je ne peux pas.
Il est sourd maintenant.
Jonathan Banks, alors c'est le patron de Vinny.
Ah oui, dans Un flic dans la mafia.
Voilà. Ah. On a également Frank
Langella. Faut mieux être sourd quand on n'entend pas de réponse de la part de Thomas.
Frank Langella. On a également Steven Weber, le patron de qu'on a vu dernièrement dans FBI porté disparu, hein, le patron de Anthony LaPaglia, enfin du moins depuis le début, là il a disparu, il s'est barré de nouveau quoi. John Glover, Megan Gallagher qu'on a vu, qui était une des bonnes copines de Chris Carter, vu que c'était la femme de Lance Erickson dans Millennium. Tony Plana, qui est Tony Plana? Pip,
Pip. Tony Plana, Pip. C'est un acteur de série.
Une série cantonnée généralement au rôle de hispanique.
Hispanique, Tony Plana, une série que dont tu as parlé récemment. Peut-être.
Alors, une première série dont j'ai parlé il y a très, il y a pas mal d'années, Résurrection Boulevard, l'histoire d'une famille hispanique du côté de la Californie. Il joue le rôle de père de famille, joue le rôle de père de famille dans une autre série diffusée sur TF1. Issu d'une telenovela colombienne.
Ah oui,
colombienne.
Bah, c'est. Ah oh,
c'est. Jardin secret. Non, c'est hollandais.
Non, c'est un truc assez humoristique. Mince, j'ai oublié son nom.
Ugly Betty.
Ugly Betty, ah, voilà.
C'est le papa de Betty.
Et on l'a vu aussi, il me semble, dans Oz, non? Il n'était pas passé?
Oui, certainement.
J'adore foutre le doute.
Oui. Jeffrey Combs également, qui apparaît dans plusieurs épisodes de DS9, hein, Jeffrey Combs.
Bah, Reanimator.
Exactement. Bill Smithrovich, alors là c'est un petit peu plus vieux. Bill Smithrovich, on l'a vu dans une très bonne série qui n'est pas une série d'action, mais qui raconte la vie d'une famille dont l'enfant est autiste. C'est vraiment très très bien, je me rappelle pas le titre. Pas
alors le nom
de
du
mais
truc,
par contre,
non,
Bill Smithrovich, bon, Bill Smithrovich est également, fait partie également de l'équipe de Dennis Farina dans une série qui date de la fin des années 80, instillée par un monsieur qui a révolutionné le genre de la série policière dans les années 80.
Bah, la loi de Los Angeles
Dennis. La fin des années 80. C'est la série des New York.
La série commence à Chicago et continue à Las Vegas. Tic, tic, tic.
Alors là,
à Chicago. Ça peut pas être.
Dennis Farina joue le rôle d'un flic dans son équipe. Il a Bill Smithrovich entre autres, et ils sont chargés de dégommer un gang de la mafia.
C'est pas un flic dans la mafia, on l'a déjà donné tout
mais
à
non,
l'heure.
Mais non,
suis un peu. Non, je sais pas.
Les Incorruptibles.
Qui commence à Chicago et qui finit à Las Vegas.
Non, Les Incorruptibles
de Chicago. La série de Michael Mann.
Ah!
Oh putain!
C'est le Michael Mann, comment il s'appelle?
Oh là là.
Merde!
Crime Story!
Ah!
Oh merde!
D'accord. J'ai jamais vu. Une excuse.
Non?
J'avais une excuse, j'ai jamais vu.
Ah mince alors, bon bah ok, je sais quoi t'offrir comme ça. Comme un coffret. Charles Napier encore dans DS9, Kurtwood Smith, dans deux épisodes, Steven Berkoff également, ça te dit quelque chose Steven Berkoff quand même, ah bon quand même. Alors, selon la tradition Star Trekienne, eh bien, les acteurs, surtout les acteurs principaux, font également les réalisations de plusieurs épisodes. Donc, on retrouve Jonathan Frakes et LeVar Burton à la réalisation de plusieurs épisodes de Star Trek DS9, mais également Avery Brooks, donc, René Auberjonois et Michael Dorn, ainsi que Sidik El Falil, qui joue le rôle du docteur Julian Bashir, rôle récurrent également dans la série, vu que c'est lui le docteur, le toubib principal de la station orbitale DS9. DS9 qui n'a duré que 5 saisons, hein, mais qui a quand même eu suffisamment d'épisodes pour passer en syndication, c'est-à-dire passer la barre des 100 épisodes qui permettent aux producteurs de revendre la série dans différents pays et de ramasser les pépettes, les royalties.
Je sais pas si franchement c'est une barre, c'est plutôt une barre symbolique, hein, parce qu'en général les syndications, en fait, ce que du sport appelle les syndications, c'est les petites chaînes de télé locales qui reprennent les grandes séries à tarifs très réduits, voilà.
Oui, mais ça permet justement de pouvoir revendre la série et de toucher des droits à chaque fois qu'il y a une rediffusion de la série.
À noter qu'il y a des séries de science-fiction qui ont débuté en syndication, comme Babylon 5.
Et si la série n'a pas 100 épisodes, il peut pas proposer les épisodes à d'autres.
Le
deal est vachement moindre. C'est vraiment.
Parce que là, c'est la série principale continue sur la grande chaîne, mais vous pouvez repasser les premiers pour ceux qui sont tombés en cours de route. Voilà, c'est surtout ça l'intérêt.
Alors 2 ans après Star Trek DS9, janvier 95, eh bien c'est une nouvelle série, et là encore une nouveauté, parce qu'on reprend un petit peu le thème du vaisseau dans l'espace qui va vraiment aller un petit peu très très loin. Mais la grosse nouveauté, c'est que le capitaine est une femme, interprétée par Kate Mulgrew, hein, le capitaine Janeway, avec ses côtés Chakotay, qui est un métis, on va dire, dans la vraie vie, mais également dans la série, hein, interprété par Robert Beltran. On a également Tuvok, qui est joué par Tim Russ, Neelix par Ethan Phillips. Russ.
Ah d'accord.
R-U-2-S. Et bien sûr le docteur qui n'est pas un être humain, hein, qui est un androïde, qui est interprété par Robert Picardo, donc tout ça dans Star Trek Voyager, qui est peut-être si Star Trek DS9 est un petit peu intéressante, on va dire, hein, parce que bon bah c'est plus on joue plus sur l'aspect de huis clos et sur ce qui se peut, les différentes interventions extérieures qui arrivent de temps en temps, hein. Dans Voyager, eh bien on reprend les thématiques qui sont très chères à Gene Roddenberry, qui à l'époque était déjà plus ou moins parti, quoi. Et les scénaristes vont un petit peu plus loin, quoi. Et ce qui fait que c'est peut-être des nouvelles séries, la série la plus intéressante, quoi, en ce qui concerne les histoires, hein, avec Next Generation. Mais bon, il y a beaucoup de trekkers qui préfèrent Voyager à Next Generation, bien que les personnages emblématiques, les personnages principaux de Next Generation, hein, le Capitaine Picard ou le Data interprété par Wayne Spinner, ou Geordi LaForge avec son espèce avec ses espèces de lunettes qui font penser un petit peu à Scott Summers, quoi, dans les X-Men version cinéma d'ailleurs, hein.
Oui.
On se demande si ça n'a pas été pompé, s'ils n'ont pas récupéré les trucs dans un vieux stock d'accessoires. Font que Next Generation est quand même la série que pas mal de Trekkies aiment bien, enfin ne détestent pas du tout quand même, parce que c'est la série qui a relancé le mythe, hein, qui a relancé tout le mythe sur l'univers Star Trek, et qui a permis justement, grâce à son succès et à sa longévité, eh bien de pouvoir lancer ses autres séries DS9 et Star Trek Voyager. Il y a également eu après Star Trek Enterprise, avec dans le rôle principal Scott Bakula, hein, qui était une préquelle, on va dire, par rapport à la série Star Trek originale, vu que ça racontait ce qui s'était passé avant que le capitaine Kirk puisse avoir un super Enterprise pour pouvoir partir dans l'espace.
Là, ils apprennent
les balbutiements, on va dire, de la conquête spatiale.
Ouais, là, ils apprennent à utiliser le vaisseau. Alors déjà, ils se disent, alors si je vais là, est-ce que je vais pas trop loin ? Et ils apprennent surtout à communiquer avec les aliens. Et ça a été ils ont très vite dû changer la manière dont la série a été écrite, parce que toute l'intrigue était basée uniquement sur bon, alors qu'est-ce qu'il me dit cet alien quand il me montre le doigt du milieu. Ça faisait chier, quoi, ce qui paraît.
Ouais, c'était
le public américain, en tout cas. Hein.
Oui, surtout le public américain. C'est parce
que Trekkies trouvait que c'était génial, mais pas le grand public.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et ce qui fait que bon, bah, au bout de 4 saisons, là, on a dit bon, on arrête les frais, c'est pas la peine. La chaîne a dit bon, stop, ça suffit. Alors que justement, la série, au bout de 2 ans, au bout de la 2e, 3e saison, commençait à être vraiment un petit peu crédible et commençait à avoir un fil qui était assez intéressant. C'est vrai que dans la première saison, bon, bah, ok, passer les fêtes sur prise et les énormes seins je connais plus le nom de l'actrice qui était aux côtés de Scott Bakula, et eh bien on se disait bon bah, ok, on voit pas très bien où ils veulent en venir. Mais à partir de la fin de la 2e saison, début de la 3e saison, là ça commence à être vraiment très très intéressant. Enterprise, donc c'est un petit peu dommage, mais enfin ça bon bah ok, hein, on sait très bien que ce ne sont pas les fans, les gens les plus concernés qui décident et qui impriment leur façon de voir les choses, mais ce sont ceux qui tiennent les cordons de la bourse, comme on dit. Alors, je parlais de Star Trek, le film original de Robert Wise, hein, de 79. Eh bien, séance de rattrapage pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est ce soir sur Sci-Fi, à partir de 20h45, en version multilingue, donc ça vaut toujours le coup d'y jeter un petit coup d'œil si vous ne l'avez jamais vu, surtout en version multilingue, hein, c'est nettement plus intéressant. Voilà en ce qui concerne Star Trek. Donc bonne séance mercredi, parce que bon, à voir la bande annonce, ça a l'air assez intéressant. Quand même un petit avis autorisé d'un Trekkie qui sait de quoi il parle, parce que c'est lui qui a réussi à obtenir la diffusion des nouvelles séries Star Trek pour la télé française, en l'occurrence sur Canal Jimmy, vers la fin des années 90. C'est Alain Carazé, à l'époque où il s'occupait encore de la programmation sur une chaîne qui valait le coup, parce que il y avait quand même des séries haut de gamme, hein. Je parlais de Star Trek, je pourrais également citer Les Sopranos, et j'en passe j'en passais des meilleurs. Mais Alain Carazé, qui a vu le film Star Trek en avant-première, déjà le nouveau film, donc, et qui bon bah ok, est toujours pas redescendu de son siège.
Il est satellisé.
Voilà, il est satellisé, il y a pas de problème. Donc si Carazé trouve que c'est pas mal, c'est quand même une bonne raison, je pense, d'aller voir.
Je te passerai l'épisode de la série où Carazé fait un second rôle intéressant.
Ouais, non mais ça vaut le coup. Mais tu sais qu'il a son blog.
Son blog, oui, mais je le retrouve.
Voilà, hein, donc.
Sur canalplus.fr.
Non, ça vaut le coup, quoi, de toute façon, quoi. Allez, un peu de télé quand même, hein. Vite fait.
Bon, allez, attends, il est moins 20, il faut que JB rentre travailler.
Ah oui. Alors PJ, parlons de PJ un petit peu, passons du coq à l'âne avec PJ, cette série française qui a un petit peu révolutionné, il faut dire, hein, la case horaire du vendredi soir sur France 2, et qui à l'époque était quand même une série très novatrice, qui s'est enfermée un petit peu dans un train-train, dans des histoires de secrets d'alcôve qui étaient pas trop intéressants, hein, savoir plus ou moins qui était avec qui, et qui a trompé qui avec l'autre et tout. Bon, bah ça commençait à devenir un petit peu casse-couille et chiant.
Belle
quoi.
La vie.
Hein, PJ qui revient donc pour une ultime saison, et c'est une nouveauté, on va dire, hein, dans la nouvelle mouture des séries à la française, c'est que, eh bien, il va y avoir une vraie fin, c'est-à-dire ça va pas s'arrêter, stack, hop, fin de saison, et puis bon, on veut plus reconduire, donc on s'arrête comme ça de but en blanc. Non, bah il y aura une fin définitive avec un truc écrit quand même valable. Alors 8 épisodes donc vont être diffusés, dont de vendredi prochain à 20h35 sur France 2, mais qui vont être découpés en deux parties. Il va y avoir 4 épisodes qui vont être diffusés là les vendredis qui viennent, et 4 autres épisodes, et ça c'est la grosse nouveauté, vont être diffusés à la rentrée. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il va y avoir le retour de Bruno Volkovic. Alors non, attends, comment ça se passe là ? Mais on croyait qu'il était mort.
Je sais pas, il paraît, oui.
Ben oui. Et comment ça se fait ? Eh bien, là, c'est la grosse nouveauté, justement, c'est que les 4 épisodes qui vont être diffusés...
Sans clone.
Non, les 4 épisodes qui vont être diffusés à la rentrée, c'est-à-dire en septembre, eh bien, ça va être un préquel. C'est-à-dire que ça va raconter l'avant-PJ. avant le début de la diffusion de la série. Donc comment Bruno Volkovitch est rentré dans ce commissariat.
Ça, c'est une nouveauté pour la France. Hein.
Voilà, c'est une grosse nouveauté pour la France et bon bah ça valait le coup d'être signalé. Donc PJ la semaine prochaine à 20h35 sur France 2.
Qui fera toujours meilleure audience qu'une soirée des Molières.
ouais ou que la soirée Christophe Ondelat avec Olivier Ruiz. Sans problème.
Sans problème.
Alors, vite fait, une série de films pour la semaine prochaine. Et comment parler de science-fiction? Eh ben, je vais vous passer des westerns. Ah. Eh ouais, forcément. Avec ce soir, sur RTL9 à 20h35, Bandolero de Victor McLaglen en 68 avec James Stewart, Dean Martin et Raquel Welch. Sinon, demain, sur Direct 8, double programme avec à 20h40, Les Pétroleuses de Christian Jacques en 71. Qui vaut, bon le film est pas top mais qui vaut surtout pour la plastique intéressante des deux actrices principales, Brigitte Bardot et Claudia Cardinale, mais c'est suivi par contre après par un super western de Henry Hathaway en 66, Nevada Smith avec Steve McQueen, Karl Malden, Brian Keith et Suzanne Pleshette. Là
celui-là
bon.
Il est bon,
là vraiment très très bien. Et demain soir également sur 13ème rue à 20h40, Soleil Rouge de Terence Young en 71 avec Bronson, Delon, Ursula Andress et Toshiro Mifune. Là, c'est assez rigolo. C'est très fun, quoi. Il faut le regarder avec.
De long face à un samouraï dans le Grand Ouest, ça vaut le coup.
Ouais, non, mais le baston que prend la rencontre entre Bronson et Toshiro Mifune, quand Bronson, en tant que cowboy, essaie de se battre à la cowboy, c'est-à-dire avec les poings et tout, quoi, et que l'autre lui fait 4-5 prises de judo et tout, quoi, dans un Tomoe Ippon Sayonage, je me rappelle pas comment ça s'appelle.
Ça, c'est du judo, ça.
C'est la planchette japonaise.
Oui, c'est ce qu'il disait, oui.
Oui, mais tout à fait, c'est la prise. Ça vaut le coup, quoi, c'est assez rigolo. Et c'est quand même tourné par Terence Young, c'est-à-dire l'homme qui nous a fait les premiers James Bond. Hein, donc, c'est pas rien, quoi. Lundi, sur TV Braze, Le Dernier des Mohicans de Michael Mann à 22h30. Là, également, rien à dire. Sur TCM, lundi à 22h45, Bataille sans merci de Raoul Walsh en 53. Un western mineur de Walsh, mais qui est quand même pas mal avec Rock Hudson et Donna Reed. Et sinon, ce n'est pas un western, mais je profite de l'occasion pour vous en parler. C'est un film qui est à voir, qui est très intéressant, qui se situe dans la lignée des films un petit peu où tu ressors un petit peu, tu sais pas trop quoi, le trip un peu de Chaser, c'est-à-dire bon, t'as pas la patate, t'as pas la banane, c'est un petit peu malsain comme ambiance du début jusqu'à la fin. Et c'est le film dans lequel un grand acteur a décidé de casser son image. Il avait arrêté de tourner dans la série qui l'a rendu célèbre, Sean Connery dans James Bond. Et en 73, il tourne en coproduction anglo-américaine le film de Sidney Lumet qui s'appelle The Offense, avec à ses côtés Trevor Howard, Yann Bannen, dans lequel il interprète le rôle d'un flic qui va tabasser à mort un type dans un commissariat parce que ce type-là est un violeur de jeunes enfants, quoi. Et en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure du film que le personnage de Sean Connery est de plus en plus trouble. Et on se demande si les flashbacks et la mise en scène assez intéressante de Sidney Lumet, eh bien, ne nous met pas sur la fausse piste. Et ça, c'est très intéressant parce que là, Sean Connery a voulu faire ce film pour après avoir lu le scénario, il s'est dit bon, là, y a pas de problème. Là, on me verra plus comme James Bond après ce film. Et ça, y a pas de problème. Il est réussi vraiment très très bien. Ça, c'est vraiment du haut de gamme. Hein, y a pas de problème. Le film a d'ailleurs été retardé en sortie parce que on ne voulait pas casser l'image de Sean Connery en tant que James Bond. Et donc le film n'est pas sorti directement quand il a été tourné, il est sorti 2 ou 3 ans après le tournage, quoi. Et là aussi c'est assez intéressant de toute façon. Et là Sean Connery dans le film est vraiment très 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 bien. Vraiment très 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 bien. Hein. C'est pas un film d'action, hein, c'est vraiment plus le film de huis clos, l'essentiel se passe dans le commissariat, quoi. Mais c'est grandiose. C'est sur Ciné Polar lundi à partir de 21h, The Offense. De Sidney Lumet avec Sean Connery.
Je crois que je vais me l'enregistrer. Thomas le note là, je crois qu'il va me le demander.
Ah non, mais vraiment, je suis tombé sur le cul quand j'ai vu ce film, quoi, parce que effectivement, c'est un film qui passe pas vraiment souvent, et pourtant il y a quand même Sean Connery dedans, quoi, tu vois, quoi. Donc
il faudra que je fasse des ménages sur le disque dur, parce qu'entre le documentaire sur les capres et Cooking Zone de BBC World, Chantal est en train de prendre de la place.
Alors, Mardi, encore du western sur Ciné Cinéma Classique à 20h40. La poussière, la sueur et la poudre de Dick Richards en 72 avec Gary Grimes, Lucas Kew et Bob Hopkins. Hein, l'histoire d'un gamin qui part de sa... De son ranch et de sa famille et qui va intégrer un groupe de cowboys, hein, vraiment, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des qui sont chargés de convoyer les vaches et les bestiaux, et donc ça va suivre son apprentissage justement en tant que jeune garçon dans le monde de ces cowboys. Mercredi sur Sci-Fi, bah ouais, non, ça c'est plus du western, mais ça c'est un des films fétiches que chaque fois qu'il passe, de toute façon vous aurez
le droit. Chat dans l'espace,
non
Cheech and Chong,
non Mutant aquatique en liberté de Sean Cunningham avec Marius Meyers, Matt McCoy et Nancy Everhart. Donc c'est toujours dur, quoi. Il y a pas de problème, mais ça vaut le coup. C'est rigolo, hein. C'est genre Abyss, mais cheapos. Et il y a du second degré qui est assez intéressant quand même. Sinon, vous pouvez vous rabattre mercredi prochain sur Ciné Cinéma Famille sur le dernier Cheyenne de Tab Murphy, qui date de 95 avec Tom Béranger, Barbara Hershey et Kurt Wood Smith. Ou alors jeudi c'est pas mal sur Direct 8 à 22h40, Tombstone qui a été diffusé il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, qui est rediffusé de George Pantocosmatos avec Kurt Russell, Val Kilmer et Michael Biehn. Rien que pour les acteurs, on achète. Ou sur NRJ 12, un film qui n'apparaît pas tellement quand on parle de Ang Lee, c'est Chevaucher avec le diable, avec Skeet Ulrich, Tobey Maguire et Jeffrey Wright, l'histoire de ces groupes de jeunes qui étaient chargés de jeunes sudistes qui étaient chargés de terroriser les d'attaquer comme ça, mais juste des petits trucs, pas des attaques frontales, mais d'emmerder quoi les nordistes quand ils se déplaçaient et tout quoi. C'est-à-dire juste des petits c'est un film qui est assez intéressant quand même quoi. Et puis bon, c'est ça vaut le coup quoi. Sur NRJ 12, donc Chevaucher avec le diable, jeudi prochain à 22h30. Et on termine le vendredi sur Arte bien sûr à 22h20. L'épisode 10 de Criminal Dauerdienst qui s'appelle Verantwortung. Que j'ai pas cherché la traduction, mais logiquement ça doit vouloir dire questionnement. Hein, je le jurerai pas de toute façon. Quoi. S'il y a des germanistes qui nous écrivent, il n'y a pas de problème. Quoi.
Attends, on se fait déjà rappeler à l'ordre en direct sur le téléphone, j'ose à peine imaginer, sur le site web de l'émission, ouais. suppléantweekend.fr. Bientôt, on va un petit peu le compléter, promis juré. Va falloir que je m'y mette un petit peu ce week-end. Thomas, s'il te plaît, je sais, on est un petit peu essoufflé. Peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission Supplément Week-end numéro 197 en cours de roue libre?
Oui, tout à fait. Déjà, je vais corriger une erreur puisque il y a eu un auditeur qui nous a appelé. Puisque c'est vrai que je fais souvent l'erreur, je ne vérifie pas quand je fais une chronique cinéma si le film est encore à l'affiche. Je m'étais avancé en disant qu'il était certainement encore à l'Utopia. L'auditeur nous a dit qu'il était encore, qu'il était au cratère à partir du 20 mai jusqu'au 9 juin. Donc voilà, il nous dit il n'y a pas que l'Utopia à Toulouse. C'est tout à fait vrai et je m'en excuse. Sinon le PV de l'émission JB n'était pas là. Nous avons eu du Free Comic Book Day, le mag sur des Hadouken, de la bande dessinée chinoise pixelisée, du psychopathe en bande dessinée, du Volvi, en veux-tu en voilà, j'essaie de me relire, du tueur en série coréen, de la des gars en pyjama dans l'espace, des cowboys sans pistolet laser et du mutant dans l'eau.
D'écrire, me souligner. Nom d'un triphaseur, ils ont manqué tout ça. Pardon, je vais y arriver. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver des chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides. Il y en a eu des nouveaux. Et d'ailleurs, on attend celui de Thomas. Laissez vos commentaires, posez des questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site suppléments-weekend.fr. Suppléments-weekend.fr sans accent ni tiré. Vous allez sur www.radio-fmr.net. Radio-fmr.net. Vous cherchez Supplément Weekend dans Google. Vous tombez directement.
Suppléments-weekend.fr. Et puis voilà.
Voilà. Et puis voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Non.
Non. Pas la semaine prochaine, dans 2 semaines.
Dans 2 semaines, voilà. Et donc...
Nous continuerons certainement cette chronique de Star Trek avec le film, cette fois-ci.
Voilà. Et plein d'autres choses. Ciao, bye bye. Profitez-en bien, il fait beau, il fait chaud. Et puis voilà. Et ce chaud. Soir, il y a une soirée Tokyo Décadence au bikini avec Royal Cabaret, Gadget, Kokushidoshiyoku et un spécial guest. Et il y a marqué Punish Yourself à côté, mais à mon avis, parce que le souligné est allé dans le mauvais sens. Voilà.
La suite du sport pour la suite des programmes.